Alors.
Pourquoi ça marche pas? C'est bon, normalement. Pourquoi ça ne marche pas? Ben, ça marchait la semaine dernière.
Oui, ça va marcher.
Ah, ça y est. Ça y est, il a chopé. Pourquoi il n'a pas chopé plus tôt, je ne sais pas, mais là, il a chopé.
Ah. Ah. Ah,
voilà.
Ça, c'est bien.
Est-ce que c'est possible de monter un peu la projection?
De la monter?
Mettre la livre.
Vous voyez au fond? La révélation, qu'est-ce à dire? L'étymologie du mot révélation et la révélation chrétienne telle qu'elle se comprend elle-même ne correspondent qu'imparfaitement. Vous vous rappelez? Donc on avait mis en présence l'étymologie d'un côté et la révélation chrétienne de l'autre côté telle qu'elle se comprend. Et il n'y a pas une correspondance complète. Et j'explique. Il y a dans la révélation chrétienne une nouveauté que l'étymologie du mot révélation ne fait pas entendre. Parce que révélation, c'est enlever le voile, donc il n'y a rien de neuf. Et il y a dans la révélation chrétienne, hein, puisque le point de départ après les deux points, c'est dans la révélation chrétienne, il y a une nouveauté qu'on n'a pas dans l'étymologie, et dans la révélation chrétienne, il y a une absence d'évidence, alors que l'étymologie du mot révélation affirme un registre d'évidence. Une fois que vous avez enlevé le voile, bah, il n'y a plus qu'à regarder.
Oui.
Ok, donc il y a deux aspects au moins qui rentrent en tension. Tiens, l'étymologie d'un côté et ce qu'est la révélation d'autre. Vous aurez sur la base hein, la diapo. Ah. Oui, oui, j'en vois plusieurs qui prennent la photo, mais vous allez l'avoir sur le cours, comme les diapos de la semaine dernière.
Ah, bah, très bien.
Elles y sont déjà d'ailleurs normalement.
Oui.
Voilà. Donc ça, je vais l'envoyer tout à l'heure. Ça, j'ai fait le résumé de ce qu'on a fait, pas le résumé du cours. Ah. Donc on a, et ça c'est le squelette hein. On a parlé de bien d'autres choses, mais ça c'est le squelette. Donc je le répète, étymologie d'un côté, révélation de l'autre, ça frotte au moins sur deux aspects, nouveauté et évidence. Dans la révélation chrétienne, il y a une nouveauté, et pourtant cette nouveauté n'induit pas une évidence. Vous vous rappelez, pour l'évidence, on avait notamment cité 1 Corinthiens 13, je vois encore comme en énigme dans un miroir. Vous vous rappelez de ça?
Oui, oui.
Voilà. Deuxième partie, c'est toujours ce qu'on a fait la fois dernière. La révélation chrétienne est de nature relationnelle et pas seulement de nature informative. Dans la révélation chrétienne, il ne s'agit pas simplement de savoir, il s'agit de savoir des choses, mais pas seulement. Il s'agit d'être en relation avec quelqu'un, le Christ, et par lui, Dieu. Donc la révélation chrétienne, elle est de nature relationnelle et pas seulement de nature informative. Et cela, cette nature relationnelle, suppose que le paradoxe est maintenu du voilement-dévoilement dont toute relation dépend. Alors là, c'est résumé, donc c'est exprimé de manière très abstraite si l'on veut. Mais rappelez-vous les exemples qu'on avait donnés. Donc, si je veux tout dire, je ne dirai rien. Si je veux m'exprimer auprès de quelqu'un, surtout si ça compte, si c'est important, je vais devoir choisir. Choisir les mots, choisir le moment et choisir la manière de le dire pour le conduire. Parce que le langage est linéaire. Parce que... Vous rappelez, je vous avais donné le contre-exemple de ce garçon sympathique comme tout, là, qui est dans mon catéchuménat et qui est autiste, et qui met sur le même plan Jésus est ressuscité, Jésus a les cheveux longs. Non, la vérité, et en particulier la vérité relationnelle, il y a une architecture, une perspective, une profondeur, tout n'est pas sur le même plan. Tout n'a pas la même valeur, tout n'a pas la même portée. Et donc, dans la relation, il y a une, si je puis dire, un progrès, un cheminement, une déambulation, une expression de soi, une compréhension de l'autre qui suppose tout ça. Ça va ? Et donc, paradoxalement, se donner à connaître, ça ne consiste pas à tout dévoiler ou à tout dire. Au contraire, ça consiste à filtrer pour faire venir ce qui compte vraiment. Voilà. J'ai regardé, j'aime beaucoup le cinéma, hein. J'ai regardé un film qui n'est pas un grand film, mais qui est un bon film, je crois, où surtout il y a un acteur que je trouve absolument prodigieux, qui est Jake Gyllenhaal. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est un acteur américain. Je ne sais pas si je prononce bien d'ailleurs, parce qu'il a un nom bizarre. Et dans ce film, il passe par une série, alors en plus il est filmé en gros plan pratiquement tout le temps, il passe par une série d'émotions extrêmement fortes, avec une aisance, c'est absolument stupéfiant, c'est un jeu d'acteur absolument incroyable. Il faut être très naïf pour se dire que du coup, vous êtes entré dans une relation intime avec cet acteur. Ah, pourtant, il a montré des émotions sur 1h30 de film, tout plein. Voilà. L'amour, la haine, la colère, la détresse, etc. Mais... non. Si vous voulez vraiment le connaître, il va voiler un certain nombre de choses. C'est pas montrer tout ça, se faire connaître. Il a fait connaître son personnage, il n'a pas fait connaître lui. En partie, la manière qu'il a d'habiter le rôle, ça le fait connaître lui, mais en partie seulement. Je connais quelqu'un qui est passé, qui n'est pas très connu, mais qui est passé à la télé et ça a eu un très grand retentissement. Et qui un jour a été arrêté dans le métro par quelqu'un qui lui a dit « Ah, je vous connais !» Ben oui, si on veut. Voilà, on s'est vu, mais on ne se connaît pas. Voilà. Ainsi, la révélation, elle est achevée, c'est-à-dire close, et pourtant l'énigme est maintenue. C'est ce que nous dit saint Paul dans 1 Corinthiens 13. Hein. Voilà. Le verbe s'est fait chair et pourtant Paul, en 1 Corinthiens 13, nous dit « Mais je connais comme dans un miroir. Ma connaissance est partielle. » Jésus le dit, hein, il y a encore beaucoup de choses que j'aurais à vous dire, etc. Le paraclet vous les fera connaître. Il y a une relation qui est initiée, on progresse, on se rencontre. Se rencontrer, ça suppose cet étrange paradoxe du voilement-dévoilement. Donc la révélation est achevée et close, et pourtant l'énigme est maintenue. Il s'agit avec la révélation donc d'un chemin, d'une expérience relationnelle en progrès. La révélation est donc à la fois achevée et ouverte. Elle ouvre un parcours singulier et collectif, collectif et singulier. Alors ça, on a l'impression que c'est vraiment le littéraire qui s'amuse à répéter deux fois la même chose dans l'ordre inverse, parce que, en fait, il y a une plus-value. Parce que, selon les cheminements des uns et des autres, vous êtes d'abord venu à la révélation par le collectif et vous en découvrez la singularité pour vous, et dans d'autres cas, c'est l'inverse. C'est le Christ qui vous a parlé en premier de manière très singulière, c'est ensuite en seconde instance seulement pour vous en venir à la dimension collective.
Ça dépend du parcours de chacun. Ce n'est pas simplement pour un effet de style que j'ai répété dans l'ordre inverse, singulier et collectif. Dans un catechumina, c'est très net. Dans le catechumina où je suis, il y a des gens qui viennent d'abord au groupe chrétien, à la communauté qui les a séduits, parce qu'ils sont passés par là, ils ont trouvé ça soit joli, soit chaleureux, soit sympa, soit intéressant, soit spirituel. Et ils viennent, voilà, dans une expérience spirituelle relativement peu silhouettée, peu dessinée, et petit à petit ils découvrent Jésus. Et parfois c'est l'inverse. C'est-à-dire, ils ont d'abord découvert Jésus et plus tard ils se sont dit oui, mais cheminer pour moi, cheminer avec Jésus, ça veut dire cheminer avec d'autres. Ils en viennent au collectif. Dans le premier cas de figure, l'exemple le plus drôle, c'était aussi un catéchumène, mais un autre, où j'étais aussi, il y a longtemps. Le catéchumène en question, ça faisait 2 ans ou 3. Enfin bref, c'était l'année de son baptême. Et le jour du dimanche des rameaux. Donc à une semaine de son baptême, il a trouvé, c'était pas moi qui avais fait le mis, c'était un confrère. Il a trouvé le confrère et il dit ah, hein, mon père, votre mini a été fantastique. Hein. Alors si j'ai bien compris, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Jésus serait Dieu.
Ah, oui.
On était à une semaine du baptême.
Il a tout compris.
Lui, il était venu à la fois, pas par le Jésus et la dimension singulière, il était venu à la fois par l'esthétique, la dimension spirituelle, la dimension collective, voilà, la famille, le côté chaleureux. Voilà. Il découvrait, chemin faisant, que au centre de tout ça, il y avait Jésus, vous le savez déjà, mais qu'il y avait quand même un statut à part. Hein. Ça, il a...
Voilà, vous reconnaissez à peu près ce qu'on a fait. Ça, c'est le squelette. C'est ce qu'il faut avoir compris. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Des questions de... pas des commentaires, on a très peu de temps là, donc je ne vous demande pas de commenter, mais je vous demande des questions de compréhension là-dessus.
Moi, j'en ai une sur « Ainsi la révélation est achevée ». Ça me va bien comme ça, ça me rassure, j'ai rien qui me plaise au contraire. Mais qui on est pour dire à Dieu que sa révélation est achevée, qu'il n'y a plus rien d'autre, enfin, comment...
Parce qu'on ne peut pas imaginer, à partir du moment où il se fait homme, on ne peut pas imaginer un au-delà de ça, si ce n'est que nous devenions Dieu, c'est-à-dire que nous entrions en Dieu Trinité, mais ça c'est l'au-delà. C'est quand saint Paul dit « Alors je connaîtrai comme je suis connu ». C'est-à-dire, il n'y a pas de plus que ça ici-bas. C'est-à-dire, là, ainsi la révélation est achevée, ça vient d'ici. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement informatif, c'est relationnel. Dieu ne dit pas simplement ce qu'il veut. Par exemple, il ne se contente pas de donner des commandements. Il ne révèle pas seulement ses volontés, ce qu'il veut, il se donne en humanité. Là, il n'y a pas d'au-delà de ça, ici-bas. Le seul au-delà pensable, c'est nous en lui, ce qui s'anticipe mystiquement et sacramentellement ici-bas, et ce qui se réalise au-delà. Ça répond ou pas ?
Enfin, je suis trop rationnel, trop scientifique, j'en sais rien. Mais là, j'arrive pas naturellement à cette. Je l'entends et ça me va. Mais si un jour il voulait me dire autre chose ou compléter.
Si un jour, il faut pas le faire, si un jour, pardon.
Si un jour je disais que Dieu voulait d'un moyen ou d'un autre compléter d'une façon.
Alors, mais là, ici, vous êtes sur un registre informatif. Et alors, il faut bien faire la distinction, hein. C'est parce que en Jésus-Christ, on a cet aspect relationnel absolument inouï, qui est que Dieu ne dit pas seulement ce qu'il veut, mais qu'il se donne, on n'a pas d'au-delà pensable. Sur le registre informatif, il y a au moins un progrès dans la compréhension de ce qui est donné. De ce point de vue-là, et d'ailleurs ça se constate, je sais bien que Benoît XVI a parlé d'une herméneutique de la continuité, mais les faits contredisent ça. Dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de la doctrine, il y a des virages, et des virages sévères. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un progrès tellement fort de la compréhension de ce qui nous est donné, qu'il est objectif de dire qu'il y a des choses qu'aujourd'hui nous enseignons, que nous ne pouvions pas enseigner, parfois il y a même seulement un siècle de décalage. Je donne un exemple, même si
il y a dans le modernisme. Qui connaît la crise moderniste? Personne.
En art.
La Béloisie, ça vous dit rien? Non, non, en théologie. La Béloisie, ça vous dit rien, ça alors? Bon, il y a une énorme crise, fin du 19e et surtout première moitié du 20e. Maurice Blondel, ça vous dit rien tout ça? Voilà, bon. Bref, il y a une énorme crise. L'abbé Labertonnière, ça vous dit quelque chose, l'abbé Labertonnière? Bon, tout ça, c'est des gens condamnés. Hein. Alors Blondel, aujourd'hui, il est très très reçu, et Labertonnière, on commence un peu à le réhabiliter. Mais Loisy, il a été excommunié, Édouard Leroy, il a été mis à l'index. Bon, donc il y a une crise française très très forte, très violente, qui s'appelle la crise moderniste. La plupart, des, alors, il y a des choses dans la posture de fond du modernisme qui ne sont pas recevables probablement, en tout cas chez certains. En tout cas chez certains. Par exemple, à mon avis, chez Édouard Leroy, il y a des choses qui ne sont pas recevables jusqu'au bout, dans la posture de fond. N'empêche que, il y a des énoncés formellement condamnés chez ces gens-là, par l'Église de la fin du 19e et du début du 20e, qui aujourd'hui sont absolument enseignés partout. Par exemple, le fait que la révélation a cette dimension relationnelle. Et que accéder à la révélation, ce n'est pas accéder à un contenu de données positives, mais c'est accéder, c'est entrer dans cette relation. Par exemple. Et ça, vous l'avez dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors que dire ça au début du 20e, vous vous y tapez sur les doigts. Donc oui, il y a une herméneutique de la continuité si on veut, mais il y a aussi une herméneutique de la rupture hein, quand même. Hein. Aussi, hein, quand même. Hein. Alors pas dans les contenus, mais dans la manière de les comprendre, de les... Voilà.
C'est un peu... Je suis l'alpha et l'oméga, donc... Et puis peu à peu, vous allez apprendre à conjuguer.
Ah, ça c'est une... L'exemple de la grammaire est un exemple qu'on retrouvera peut-être, parce que c'est un exemple très fort, très puissant.
L'exemple de la grammaire. Voilà pour le résumé. Est-ce qu'il y a d'autres questions de compréhension? Non? Alors on passe à la suite, c'est-à-dire là. Parce qu'on n'a pas fini la première étape. Voilà. Donc, oula. Ah oui, non, c'est pas... Pourquoi il n'a pas écrit? Pourquoi il n'a pas ouvert... Ah oui, c'est le PDF. Voilà. Il faut le PowerPoint, voilà. Alors, on en est... Voilà, on en est là. On a fini ça. Ça, c'était la citation de Christophe Théobald sur l'aspect relationnel, l'aspect énigmatique. Ça va? Bien. Alors oui, c'est peut-être surprenant, oui, c'est dense, mais je crois quand même que c'est relativement compréhensible. Oui, 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 j'ai remis en retour justement, merci beaucoup. Alors, là, on va aller assez vite, je crois. Il nous reste un petit quart d'heure, mais on va peut-être réussir à finir en un quart d'heure, on va voir. Ici, ce passage va aller assez vite, c'est les pèlerins d'Emmaüs. Non, pardon, je ne suis pas au bon endroit. Ah, c'est là. Voilà, les pèlerins d'Emmaüs. Donc on est en Luc 24, et ici on voit le passage, dans ce texte que je trouve merveilleux, on voit le passage de « de quoi parle-t-on » au « de qui parle-t-on ». Le passage de l'informatif au relationnel. Ah, quand on est au fond de la salle, c'est vraiment petit. Hein.
Ah oui. Il faut
que j'en tienne compte. Ouais. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades, et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha, et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, il leur dit: quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant? Alors ici, on voit tout le cheminement. Non seulement le cheminement est spatial, parce que ce sont les pèlerins d'Emmaüs, c'est-à-dire ils vont de Jérusalem à Emmaüs, donc ils se déplacent géographiquement. Mais on voit bien que ce déplacement spatial est comme la métaphore d'un déplacement, d'un cheminement intérieur qui va dépendre justement de ce processus dévoilement, voilement, dévoilement. Ici, ils sont accostés par un kidam qui va s'avérer, vous connaissez la fin de l'histoire, vous savez déjà que c'est Jésus, mais eux ne le savent pas. Donc il y a le voilement là. Jésus ne décline pas tout de suite son identité. Elle est voilée. Et ce voilement est précisément ce qui va permettre le cheminement vers la rencontre. Et quand la rencontre se fera, que se passe-t-il? Il disparaît. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant? Et ils s'arrêtèrent, les visages sombres, prenant la parole. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit: tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. On est dans le ce qui est arrivé ces jours-ci. On est dans le de quoi parle-t-on? Quoi donc, leur dit-il? Ils lui dirent: ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Là, on parle du de qui parle-t-on? C'est pas très élégant comme manière de parler, mais vous me suivez. Sauf que c'est pas le bon de qui?
C'est pas
le bon de qui? De qui parle-t-il? La littérature politique. Libérateur politique qui allait libérer Israël des affreux romains. C'est là, hein? J'espérais que c'était lui qui allait délivrer Israël. Ici, la délivrance, c'est pas la délivrance de la mort et du péché pour entrer au royaume de Dieu, hein? C'est la délivrance de l'oppresseur romain. Donc là, c'est le de qui, mais pas le bon. Je ne suis pas en train de dire que l'évangile n'est pas de portée politique, hein. L'évangile en a bien une portée politique. Il en a bien une. Mais pas forcément celle qui est attendue de la part des disciples d'Emmaüs, des parents d'Emmaüs. Et ici, une portée politique du type « bouton le Romain hors d'Israël ». Mais avec tout cela, voilà le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés, s'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, Jésus, ô cœur sans intelligence, non à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, ici, vous avez d'abord le cheminement spatial des pèlerins. Ils vont de Jérusalem à Emmaüs, le cheminement géographique. Vous avez leur cheminement intérieur qui est toujours en cours. Ils vont aller du visage tout sombre, et la fin, c'est « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» Donc ça, c'est la trajectoire intérieure. Et là, vous avez aussi une trajectoire biblique, donc à travers Moïse et tous les prophètes. Vous avez trois trajectoires superposées. Donc ici, à travers la Bible, à travers le livre. Et c'est pas tout. En leur faisant raconter ce qui s'est passé, il y a aussi un cheminement à travers la... Bon, aujourd'hui, c'est un terme très à la mode, une sorte de relecture, un cheminement à travers les événements par lesquels ils sont passés. Mais il y a une reprise, une relecture des événements par lesquels ils sont passés. Voilà ce qui s'est passé. Nous pensions qu'il était le prophète, les grands prêtres ont saisi, et les femmes ont dit qu'elles ont eu la vision d'ange. Donc ça fait beaucoup de cheminements superposés, hein. En fait, c'est le même, hein. Sous plusieurs de ces, sous ces différents aspects. On en est où? Et commençons par ce qui le concernait. Verset 28. Quand ils furent près du village où ils se rendaient, ils firent semblant d'aller plus loin. Donc il y a toujours dans ce semblant, il y a une sorte de voilement. Il y a une occultation, une dissimulation provisoire de ses intentions profondes. Son intention profonde n'est pas de les abandonner. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Là aussi, il y a toute une métaphore. Hein. Ils sont toujours... Leur pèlerinage n'est pas achevé. C'est-à-dire qu'ils ont, eux, leur visage est sombre et en plus, la nuit descend. Et il advint comme il était à table. Il entra donc pour rester avec eux. Il advint comme il était à table avec eux qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit, le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il avait disparu de devant eux. vous passez un autre registre de voilement. Donc, il dévoile qui il est Jésus, le Christ, le ressuscité, mais c'est précisément à ce moment précis où ce dévoilement-là se fait qu'intervient un autre voilement, c'est-à-dire qu'il se soustrait à leur expérience sensible. Toujours pour que la relation puisse continuer de se développer, de s'approfondir. On va essayer dans quelle direction s'approfondit la relation. En direction, c'est une théologie de la messe, hein. En direction d'une ouverture à la perception d'un autre type de présence de ce même Jésus. Dans les événements, dans le pèlerinage avec un frère, dans la parole de Dieu, dans le pain, dans la bénédiction du pain. Et la dernière étape, ça va être dans le retour à la communauté, parce que c'est exactement ce qui va se passer. Eux le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux, et se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Alors là, ils ont achevé un certain pèlerinage, on est passé du visage tout sombre au cœur brûlant. Tandis qu'ils nous expliquaient les Écritures, à 7h même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Donc, ils sont littéralement déroutés, dans tous les sens. C'est-à-dire que leur lecture des événements est complètement reconfigurée, leur compréhension des choses est complètement neutralisée, c'est-à-dire, et nous qui pensions que c'était un prophète qui allait délivrer Israël, bon ben ça c'est complètement modifié, et géographiquement du coup, histoire qu'on comprenne bien, on leur fait faire le chemin inverse. Et pas du tout dans le même état d'esprit, hein. On imagine bien que le visage n'est plus tout sombre là. Alors qu'il fait nuit. Donc ils ont une lumière différente. Il fait nuit puisqu'ils sont rentrés dans l'auberge justement parce que le soir tombait. Donc ils repartent vers les autres à Jérusalem. Ils trouvaient réunis les 11 et leurs compagnons qui dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » Et eux, donc les pèlerins d'Emmaüs, leur racontaient ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'il disait cela, lui se tint au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous ». Il s'agit bien d'une initiation à la perception d'une autre présence du ressuscité que la présence seulement sensible, ou d'abord sensible. Et elle est plurielle, cette présence au singulier. C'est les événements compris différemment, les Écritures lues différemment, la fraction du pain, le compagnonnage, la communauté, c'est tout ça. Hein. Voilà, donc le passage du « de quoi parle-t-on » au « de qui parle-t-on » et dans ce « de qui parle-t-on », vous entendez bien ici qu'il y a une nouveauté là encore pour les pèlerins d'Emmaüs. Ils n'ont pas simplement reconnu le Jésus qu'ils avaient connu d'avant la Passion, ils l'ont reconnu. Mais ils ont considérablement approfondi leur manière de le comprendre. En négatif, il n'est pas le libérateur politique qui devait bouter les Romains hors d'Israël. Et en positif, il est celui dont la mort n'a pas aboli la présence, et une présence dont la mort n'a pas compromis la capacité à être en relation avec nous. Alors toujours dans le même item là, révélation de quoi parle-t-on ? Je voudrais qu'on lise ensemble ce passage de l'évangile selon saint Marc. Alors c'est un peu long. C'est le chapitre 1. Bon, je crois qu'on a vous le lirez chez vous, parce que je crois qu'on n'a pas le temps de le lire en entier, parce qu'il y a deux diapos qui sont l'une et l'autre très chargées. Donc lisez-le à la maison. Je vous dis juste dans quel vous allez faire un petit exercice. Je vous dis juste de quelle manière, à quoi je souhaiterais que vous soyez attentifs. On en reparlera la semaine prochaine. Vous allez avoir sur ces deux planches-là, c'est les planches, ceux qui veulent des numéros, c'est les planches 10 et 11.
C'est-à-dire, c'est les deux dernières. Voilà. C'est les deux dernières planches. Oula. Saint Marc. C'est le chapitre 1 de l'évangile selon Saint Marc. Donc c'est les deux dernières planches qui sont accessibles sur la plateforme. Donc vous y avez accès. C'est les planches 10 et 11 que j'aimerais que vous lisiez pour la fois prochaine en vous demandant ceci. Il y a trois occurrences du mot évangile. Par exemple, il y en a une ici. Il y a trois occurrences du mot évangile. D'après le texte, comment définiriez-vous le mot en chacune de ces trois occurrences? Par exemple, d'après le texte, évangile ici, ça veut dire quoi? Ici. Et puis vous avez deux autres occurrences dans ce chapitre 1, et posez-vous la même question. À cet endroit-là, évangile, ça veut dire quoi? On en reparle la semaine prochaine. Voilà, c'est un peu court comme cours aujourd'hui, mais bon.
Ça s'arrête à la fin du chapitre 1.
Oui, ça s'arrête à la fin du chapitre 1. Sur le chapitre 1 en entier, je crois, ça va jusqu'au... Oui, c'est ça, ça va jusqu'au verset 20. Et donc, on a tout le chapitre 1 de Marc. Je vérifie quand même, mais je suis presque sûr de ce que je vous dis. Ah non, je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit une grosse bêtise. Le chapitre 20 est beaucoup plus long que ce que j'ai dit, donc ça va jusqu'au verset 20. Et ça s'arrête. Et c'est-à-dire, ça va jusqu'à la moitié seulement. Je vous ai dit une grosse bêtise. Donc, chapitre 1, verset 1 à 20.
Excusez-moi, les liens audio, les liens sont sur le site des...
Je n'ai aucune maîtrise là-dessus.
Les deux sont ici, il faut que vous alliez normalement envoyer un mail avec toute le pas à pas la...
Oui, ça je l'ai.
Les liens audio, les liens vidéo. Oui, il y a tout.
D'accord.
Il y a les audio, les vidéos, les PowerPoint.
Super.
Vous avez une question, par curiosité. Vous avez indiqué que les séminaristes sont dévalués par des personnes qui ne connaissent pas forcément. Il se trouve que j'ai un ami qui vient d'être ordonné diacre. Tiens. Et il m'a appris.